Merci, James et Myriam. J'ai devant moi ici quelque chose que Samuel a dans son cabinet à la maison. Je lui ai demandé de l'apporter, ou il a apporté quelque chose de ce genre. Il s'agit d'un ancien, dans un sens, un ancien smartphone qui date d'il y a 30 ans. Ce n'est pas un smartphone en tant que tel, mais c'est un organisateur électronique de Sharp. Et vous ouvrez ça et vous voyez à l'époque ce que c'était. Il y a ici un petit écran, il y avait moyen d'appuyer dessus, il y a moyen ici de lier ce truc à ton ordinateur via un câble. Et donc c'est le prédécesseur des smartphones que nous avons aujourd'hui. N'est-ce pas magnifique? Mais qui utilise ça aujourd'hui? Personne. Pourquoi? Quelqu'un a dit oui? Voilà, parce que nous avons de meilleurs, chers amis, avec nous, ok? Ça avait son utilité. Sans ça, de Sharp, Sharp était pionnier dans ce domaine, on n'aurait pas ça. Mais parce qu'on a ça, on avait ça, ça nous permet aujourd'hui d'avoir quelque chose d'encore meilleur. Ce n'est pas parfait cette illustration, pourquoi? Parce que d'ici 30 ans, les gens vont dire, vous avez utilisé ça? C'est quoi ça? Okay? Donc nous, on attend, point de vue électronique, tablette, la réalisation ultime. Qui sait ce que ça va donner d'ici 1000 ans? On ne sait pas. Okay? Mais on sait qu'on ne se tourne plus vers des choses qui avaient leur utilité, mais qui aujourd'hui sont démodées par rapport à ce que nous avons. Et pour ceux qui nous rejoignent, dans un sens, ça c'est ce qu'on a vu jusque-là. Nous avons vu que le système de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, a trouvé son accomplissement dans la Nouvelle Alliance de Jésus-Christ. Et donc, au lieu de courir le danger de revenir en arrière, d'être attiré par les choses de l'Ancienne Alliance, les choses impressionnantes pour le peuple juif, nous sommes appelés à comprendre, à creuser de plus en plus à quel point ce que nous avons dans la Nouvelle Alliance est supérieur. Vous savez, à un moment donné, je pense que c'est important pour nous tous, c'est important peut-être surtout pour nos jeunes. Si vous êtes parents et vous avez des enfants qui sont jeunes, je pense que vous devez avoir dans votre programme en tant que parents pour ces jeunes qu'ils arrivent non seulement à vous suivre à l'église, c'est bien d'aller à l'église, suivre votre modèle, c'est important qu'ils suivent également votre modèle. Mais à un moment donné, que vous pouvez creuser avec eux les fondements, la richesse, la profondeur de la foi chrétienne. Parce que si vous ne faites pas cela, à un moment donné, ils vont décrocher. Parce qu'ils vont dire, mais pourquoi? Pourquoi je dois maintenir cette habitude? C'est sympa, peut-être c'est sympa pendant un temps, mais que fait-on lorsqu'on a un souci relationnel? Bon, parlons pas maintenant des enfants, mais parlons juste de quelqu'un d'autre. Tout récemment, quelqu'un a eu une difficulté minime, mais relationnelle, et ça a créé quelle réaction? Ben, je ne fréquente plus cette église. Alors, ça, c'est une réaction qui dit, il n'y a pas quelque chose de plus solide en dessous, qui dit ce que j'ai en Christ est aussi important que malgré les hauts et les bas relationnels dans la vie d'une église locale. Moi, je te vois, super sympa, tout le monde est très aimable, mais on sait la réalité pour nous, c'est que nous avons du mal de temps en temps à être ensemble, n'est-ce pas? C'est un défi d'être ensemble même pour un week-end, parce qu'on découvre un peu plus les uns sur les autres. Et dans un sens, on dit ça, c'est très positif, c'est pour ça qu'on le fait, mais dans un autre sens, c'est aussi un défi, parce qu'on découvre aussi ce qui est un peu plus négatif les uns des autres. Pourquoi on est souvent un peu plus difficile dans le cadre familial que nous le sommes lorsque nous sommes dans une église. Vous avez réfléchi à cela. Le dimanche matin, nous sommes tous sympas. C'est parce qu'on se voit rien que pour une heure. Mais dans la famille, on se voit presque 24 heures sur 24. Et donc la famille découvre qui nous sommes réellement. On court le danger maintenant de découvrir un tout petit plus qui nous sommes. Et ça crée des dégâts, du dégât relationnel. Mais si on dépend juste, ah, c'était sympa, jusqu'à ce que, oh, maintenant, c'est plus sympa, alors j'y vais. Ben, ça ne va pas. C'est-à-dire que nous n'avons pas un fond. Nous apprécions à quel point Jésus est supérieur, précieux, pour nous aider à persévérer dans la foi chrétienne. Si on n'arrive pas avec nos enfants maintenant de nouveau, traiter les questions comme Dieu et la souffrance. Si notre réponse est oh, ne t'inquiète pas, continue à venir à l'église, tout ira bien. C'est bien de vouloir continuer à aller à l'église, mais à un moment donné, nous devons donner du contenu à nos enfants. Si on dit ben, c'est pas bien de vouloir acheter le nouveau truc qui est sur le marché, c'est bien de aussi investir pour l'éternité. Mais ils disent, mais enfin, ça donne quoi investir pour l'éternité? Moi, je vois tous mes amis qui veulent investir ici, dans cette vie-ci, ça a l'air d'être super attirant, ça. Et si on dit, ouais, mais il ne faut pas écouter ce que disent ceux qui sont dans le monde, si c'est tout ce qu'on dit, à un moment donné, ils vont juste dire, merci, mais vous ne m'avez pas donné des raisons pour ne pas suivre ceux qui sont dans le monde. Donc, nous devons, dans notre foi, creuser parfois les profondeurs, donner des raisons réelles, satisfaisantes, profondes, pour que nous maintenions une foi chrétienne malgré les dangers, malgré les difficultés. On ne joue pas à la religion. Et si nous donnons l'impression à ceux qui nous suivent que nous sommes juste des religieux, c'est juste une partie religieuse de notre vie, à un moment donné, ils vont avoir le droit de dire, bah, écoutez, je ne partage pas ce même genre d'habitude. Il faut qu'on arrive à aider nos jeunes dans la foi, dans l'Église, à avoir des racines où ils possèdent pour eux-mêmes les richesses qui sont les nôtres en Christ. Tout ça en guise d'introduction, chers amis. Alors, ces chapitres qui se situent au milieu de ce livre nous donnent un regard sur Jésus-Christ qui est vraiment magnifique. Jésus supérieur à tout autre système religieux, au système religieux de l'Ancien Testament. Jusque-là, dans l'Épître aux Hébreux, on n'a pas fait le chapitre 7, mais là, nous découvrons qu'il est prêtre, non selon l'ordre lévitique, mais selon l'ordre de Melchizedek. Chapitre 8, il est médiateur d'une alliance supérieure. Et comme nous venons de lire aujourd'hui, cet après-midi, le sacrifice que Jésus il offre est de loin supérieur à tous les autres. Oui, tout au long de cette longue lecture, l'auteur de l'Épître aux Hébreux développe ce qui se trouve au cœur de cette nouvelle alliance, à savoir le sacrifice de Jésus-Christ. Donc, dans ce sens-là, il n'y a rien de plus précieux de creuser le centre de notre foi, le sacrifice de Jésus-Christ. Et si on a trouvé, oh, c'est un peu ennuyant tous ces détails par rapport au sacrifice, j'aimerais lui dire, non mes amis, entrons dans ces détails, parce que ça va nous donner du solide pour notre vie chrétienne. Il y avait déjà fait référence précédemment l'auteur, déjà au chapitre 8, mais maintenant il entre dans les détails de ce sacrifice, puisque c'est la distinction entre ce sacrifice et le système sacrificiel qui précédait de l'Ancien Testament qui se trouve au cœur de cette nouvelle alliance. Il y a trois points principaux que vous pouvez voir à la page 9. Trois aspects du sacrifice de Jésus mis en évidence par le contraste avec le système sacrificiel qui se trouve dans l'Ancien Testament. Il y a beaucoup d'autres détails, chers amis, même là maintenant dans le temps qu'on a, on ne va pas tout couvrir. Mais ces trois aspects sont présentés d'une façon intercalée, si vous voulez. Et nous voyons donc un certain chevauchement, je pense, entre ces trois points que nous voyons ici dans ce texte. Quelqu'un m'a parlé rien que hier des soi-disant chrétiens qui connaissent quelque chose de Dieu, qui ont, si vous voulez, pour utiliser le langage de l'apôtre Paul, l'apparence de la piété, mais qui renient la force. Ils aiment, ultimement, nous disent l'apôtre Paul, le plaisir plus que Dieu. Alors, si nous ne voulons pas être ce genre de personnages qui ont l'apparence de la piété, ben, essayons maintenant donc de creuser un peu plus sur le fondement du sacrifice de Jésus. Donc, les trois points se trouvent donc là sur la feuille. Un lieu supérieur, le sacrifice de Jésus à tous égards supérieur. Pourquoi? Parce qu'il offre ce sacrifice dans un lieu supérieur. Le sang qu'il verse, c'est un sang supérieur. Et le résultat qui découle de ce sacrifice donne un résultat supérieur. Donc, tout d'abord, le lieu. Le lieu du sacrifice est important. On l'a déjà vu en partie ce matin. Il a traversé la tente plus grande et accomplie, qui n'est pas fabriquée par des mains humaines, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et puis, verset 24, il explicite du chapitre 9, il explicite ses propos. En effet, ce n'est pas dans un sanctuaire fabriqué par des mains humaines, imitation du véritable, que le Christ est entré, mais dans le ciel même, afin de paraître maintenant pour nous devant Dieu. La spécification du lieu est importante parce que cela signifie que Jésus offre son sacrifice au seul endroit qui compte pour finir, c'est-à-dire dans la présence de Dieu lui-même. Aucun des sacrifices qui ont précédé celui de Jésus n'a été offert dans cet endroit. Car ce n'est que devant Dieu, devant sa présence, qu'un sacrifice pourrait être efficace. Et c'est pour cette raison que l'ancien système sacrificiel n'était pas capable de nous purifier. Et pourtant, comme l'auteur nous explique aux 10 premiers versets du chapitre 9, la première alliance, l'ancienne alliance que Dieu a faite avec le peuple par l'intermédiaire de Moïse, avait, verset 1 maintenant du chapitre 9, ses ordonnances relatives au culte et son sanctuaire terrestre. Oui, il s'agissait d'un système élaboré. Il fallait un endroit au milieu du peuple, les Lévites exerçaient un ministère pour que Dieu puisse demeurer avec son peuple. Ce ministère s'exerçait dans le tabernacle, soit une tente dans le désert. Alors maintenant, on va juste montrer une image de ce tabernacle, s'il te plaît, Boris. Alors ça, c'est la première image, on le voit de loin dans la cour extérieure. Et puis la deuxième image ici, on le voit le tabernacle de plus près. Ne vous inquiétez pas pour l'écriture autour. Ça, c'est juste pour avoir une idée de l'ensemble. Dans cette tente, nous le voyons bien, il y avait deux endroits. Okay? Le premier, verset 2 de notre texte, la plus grande partie, ici à droite de l'écran, appelée le lieu saint, où se trouvait le porte-lampe, la table, vous voyez peut-être ces choses sur l'écran, les pains offerts. Puis au verset 3, derrière le second voile, la porte est donc maintenant gauche de l'image qu'on voit, se trouvait la tente appelée le lieu saint, le lieu très saint. Là, vous voyez sur l'écran, il y avait le coffre de l'Alliance entièrement recouvert d'or. Quelques objets clés de l'histoire de l'ancien peuple de Dieu se trouvaient apparemment tous dans le coffre que vous voyez. Au-dessus du coffre se tenaient les glorieux chérubins. On ne les voit pas forcément ici, mais ils y sont. Couverts, qui eux couvraient le propitiatoire, là où on mettait le sang. Et le bloc en or c'est dans l'ensemble le propitiatoire au-dessus du coffre. Alors, verset 6 de notre texte. Seuls les prêtres avaient le droit de pénétrer ici dans la première partie de la tente lorsqu'ils accomplissaient le rituel du culte. Dans la seconde partie, par contre, seul le grand prêtre pouvait entrer. Et ce, uniquement une fois par an. Encore seulement après s'être assuré d'avoir présenté du sang pour lui-même et pour les fautes du peuple. Et puis notre auteur note la portée de ce qu'il avance jusque-là. Verset 8, je pense que c'est le verset 8. L'Esprit Saint montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas révélé tant que la première tente subsistait. Une fois par an seulement, une seule personne pouvait entrer dans le lieu très saint. C'était, si vous voulez, l'exception qui confirmait la règle. Les autres prêtres n'avaient même pas le droit de voir le lieu très saint. Nous voyons donc que le chemin du sanctuaire, dans la présence de Dieu que symbolisait le lieu très saint, n'était pas encore accessible. Merci pour le moment pour le slide. Tout le système que nous venons de voir là n'était qu'une illustration de purification. Ce n'était pas la réalité. Verset 9. Les dons et les sacrifices présentés ne peuvent pas rendre parfait sur le plan de la conscience celui qui prend part à ce culte. Vous et moi, nous ne sommes pas sales, vous le savez, symboliquement, d'un point de vue externe, en dehors de Jésus-Christ. Nous le sommes réellement, au niveau de notre âme, de notre conscience. Mais l'ancien système s'agissait uniquement de purification externe, relative au corps et non au niveau de la conscience. Et tout, verset 10, ces sacrifices n'ont jamais eu pour but de purifier la conscience. Ils ont existé jusqu'à l'époque de la réforme, c'est-à-dire l'époque de la Nouvelle Alliance. Mais verset 11, Christ, lui, a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire le ciel, afin de paraître pour nous devant Dieu maintenant. Donc cela signifie que le sacrifice de Jésus-Christ, quant à lui, n'est pas symbolique, mais est réel. Le sacrifice de Jésus peut donc accomplir une purification, non pas symbolique, mais réelle. Et cela, évidemment, grâce à son sang, ce qui est donc notre deuxième point. Mais arrêtons-nous pour un instant, pour bien mesurer, si vous voulez, la portée de ce que nous disons. Si le tabernacle et ensuite le temple qui le suivait, si tout ce système avec des belles couleurs, avec du matériel luxueux dans un sens, n'était qu'une ombre, une image d'une réalité céleste, si tout cela préfigurait quelque chose, nous ne devons pas, une fois de plus, aller en arrière, retomber vers un tel système. Évidemment, ici, juste brièvement, je pense qu'il y a de l'application pour comment est-ce que nous concevons nos bâtiments religieux, souvent veulent donner l'impression que c'est un lieu sacré, n'est-ce pas? J'ai déjà raconté, je pense, dans le passé, que je suis allé à Canterbury, comment vous dites Canterbury? Je pense que c'est quelque chose comme ça, où il y a la grande cathédrale en Angleterre, pour l'archevêque de Canterbury, celui qui est le chef de l'église anglicane. Et on était en famille dans ce bâtiment, et on voulait respecter que tout le monde un peu chuchotait, parce que c'était un peu comme ça, un grand truc qu'il fallait respecter ce qu'il y avait, parce que c'était un lieu sacré. Et donc on parlait tous comme ça.
Et moi, j'ai voulu respecter ça avec mes enfants. Et puis, je voyais qu'au sein de ce lieu soi-disant saint, il y avait le magasin où ils vendaient les cartes postales et d'autres objets. Et juste à côté, il y avait ce signe, « Merci de respecter le silence dans ce lieu saint ». Alors là, mes amis, il faut choisir, n'est-ce pas? Soit c'est le lieu saint, alors on ne vend pas quelque chose, soit c'est un bâtiment normal et on vend des cartes postales sans problème, alors on n'insiste pas sur le silence. Et donc j'ai commencé, avec, évidemment, de manière respectueuse toujours, à élever un petit peu ma voix avec mes enfants. Et parce qu'on ne peut pas vivre dans l'hypocrisie de cette manière-là. Vous choisissez, vous voulez que ce soit l'ancien système, ok? Il faut tout le package. Mais sinon, c'est du blabla religieux, tout simplement. Mais il se peut que nous sommes là-dedans et nous sommes attirés de nouveau par cette architecture imposante, ou des bougies, ou de l'encens, ou un autel. Waouh! Ok? Mais ça, dans un sens, on peut critiquer dans ce d'un certain liturgie formalisme, mais nous, toujours, on continue à appeler nos bâtiments des temples. Hein. On en a déjà parlé, donc pas besoin de continuer à parler comme ça. Nous, on peut donner le sentiment que ce n'est qu'à l'Église, à travers peut-être la louange, où on entre dans la présence de Dieu. Là aussi, c'est de commettre une erreur, chers amis. Là aussi, c'est de nouveau tomber sur des manifestations externes pour que nous soyons emportés dans la présence de Dieu. Vous imaginez ce qui se passerait si on entrait réellement dans la présence de Dieu à travers de telles choses? On tombe dans les mains d'un Dieu saint. Et c'est une chose terrible, nous dit l'Épître aux Hébreux. De tomber dans les mains d'un Dieu qui est juste. Non, il n'y a que le sacrifice de Jésus-Christ qui est supérieur à tout autre sacrifice, qui nous permet d'entrer dans la présence de Dieu. Donc ne retombons pas dans ce qui est la religion. Donc on a vu le lieu supérieur. Maintenant, alors on va creuser un peu plus le sang. Supérieur. Et ça, il s'agit de son propre sang, et non pas le sang d'un animal. Verset 12 du chapitre 9. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non pas avec du sang de bouc ou de taurillon, mais avec son propre sang. Et quelle différence cela fait? Oui, il est dit au verset 13 que le sang de bouc et de taureau, la cendre d'une génisse qu'on répand sur ceux qui ont été souillés, consacre de manière à purifier la chair. Oui, les sacrifices donc avaient leur utilité, mais une utilité limitée dans le temps, une utilité limitée à la chair, c'est-à-dire une purification symbolique, externe, cérémoniale. Il est donc tout à fait vrai que pendant un temps, Dieu considérait, grâce au sacrifice offert à l'autel, que son peuple était purifié par ses sacrifices. Ceci permettait que Dieu reste le Dieu, en dépit de la désobéissance. Mais les sacrifices n'ont pas ôté le péché du peuple. Pas réellement. Verset 3 du chapitre 10. Par ces sacrifices, on rappelle, année après année, le souvenir des péchés. Mais pourquoi? Parce que, verset 4, il est impossible que le sang, du sang de taureau et de bouc, ôte les péchés. Et donc, nous voyons, dans un sens plus profond, que les sacrifices de l'Ancien Testament n'ont pas marché. Car verset 15 du chapitre 9, des transgressions commises sous la première alliance n'ont pas été payées. Et comment voulez-vous que ce soit le cas? Un animal qui meurt, sous l'ancien système, une victime passive, mise à mort pour que mes péchés à moi soient pardonnés. Vous vous rendez compte? C'est scandaleux! Si c'est vraiment le cas. Alors, on prend un exemple pour comprendre à quel point c'est en fait scandaleux qu'un animal peut payer pour mes péchés. On prend l'exemple peut-être classique, mais je pense que ça vaut la peine de le mentionner. David. Bah, vous vous souvenez de David, n'est-ce pas, le roi d'Israël. Lui qui avait péché. Il avait convoité la femme d'Uri, Bathsheba. Il a couché avec elle. Et puis, lorsqu'il avait compris qu'elle était enceinte, il s'est d'abord arrangé pour que Uri couche rapidement avec sa femme, pour que l'erreur ne soit pas aperçue. Et lorsque cela n'a pas marché, parce que Uri c'était un homme honorable, il a fait en sorte que Uri soit placé à l'endroit le plus exposé pendant la bataille. Et ainsi, il a perdu sa vie. David, plus tard, il a été confronté par le prophète Nathan pour son péché. Et on peut imaginer que David a offert tous les sacrifices nécessaires pour le pardon de sa faute, selon le système de l'Ancienne Alliance. Alors quoi? Après, à partir du moment où un animal est sacrifié, son sang répandu sur le propitiatoire, alors c'est bon? David est tranquille, pas de souci? Le péché est ôté? Et alors, où est la justice dans tout cela? On trouve les parents d'Uri et on leur dit, désolé, en fait, monsieur, madame, votre fils est mort, vous savez. Oui, c'est David qui l'a trahi. C'est lui qui a pris sa femme. Oui, c'est lui qui a organisé sa mort. Mais ne vous inquiétez pas, chers amis, car un taureau a été sacrifié ce soir. David est pardonné. Il n'est pas sérieux. Pardonné? Où est la justice dans tout cela? Bien, il n'y en avait pas. Les péchés commis sous l'Ancienne Alliance n'ont pas été ôtés ni réglés. Pas réellement, pas définitivement. Le sang d'un animal n'était pas capable d'effacer quelque péché que ce soit. Est-ce que nous comprenons cela? Mais, voyons-nous, verset 13, qui commence verset 13 avec... verset 13. En effet, si le sang des animaux consacre de manière à purifier la chair, combien plus le sang du Christ, oui, du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même à Dieu sans défaut, combien plus le sang du Christ purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous rendions un culte au Dieu vivant. Donc, notons-le bien. Non seulement il peut faire cela pour nous, mais il le fait aussi d'une façon rétrospective. Verset 15. Maintenant, on peut dire qu'une mort a eu lieu pour la rédemption des transgressions commises sous la première alliance. Oui, maintenant, enfin, grâce à Jésus-Christ, la justice est rendue. L'homme Jésus-Christ peut nous représenter devant Dieu. Il est comme nous, il est humain, mais cet homme est aussi divin. Le Christ qui s'est offert lui-même à Dieu. Et lorsque son sang a été versé à la croix, à ce moment-là, il a réellement payé pour nos péchés. La justice qui devait tomber sur nous, sur David, sur tous les autres pécheurs, est tombée plutôt sur lui. Il a expérimenté le rejet de Dieu, la colère de Dieu sur lui. Lui qui était sans péché, sans défaut, il est devenu péché pour nous. Alors mes amis, ici maintenant j'aimerais aussi juste retirer 2-3 petites leçons pour nous. Tout au long, je ne sais pas si cela vous a frappé lors de cette lecture, mais il n'y a pas d'exhortation directe dans tout ce passage. Il n'y a pas un moment où il a dit « Et voici maintenant ce que vous devez faire. » L'ensemble, c'est juste une explication de la joie de connaître la supériorité du sacrifice de Christ. Et donc, comment est-ce que nous réagissons par rapport à ça? Bah, si, d'abord, on prend l'exemple de quelqu'un qui est religieux, qui se dit chrétien, mais qui cherche en dessous son épanouissement à lui-même, qui fréquente l'Église, parce que ce qu'on cherche de la part de Dieu, c'est que Dieu peut faire des choses pour moi. Donc, je suis là, ultimement, pour que Dieu soit à mon service. Mais je ne suis pas là, ultimement, parce que Dieu est celui qui effectue le salut pour moi en Christ. Si je cherche quelque chose qui me permet de me sentir mieux par rapport à moi, si je cherche une religion qui me permet de faire certaines choses pour que je puisse être fier de moi-même, forcément, à un moment donné, si je me sens bien dans la religion, si je me sens plus bien dans cette religion, je vais me demander pourquoi je persiste à pratiquer la religion. Parce que dès que ça ne va pas, dès que ça, c'est moins utile pour moi, je dis, plus besoin de ça. Mais vous savez, la foi chrétienne n'est pas concernée d'abord pour notre épanouissement. Et j'espère que vous connaissez ça, chers amis. J'espère que vous n'êtes pas avec nous, parce que jusque-là, pas mal. Jusque-là, vous êtes plus ou moins content. OK? Point de vue sentimental, ça vous va. Dans la foi chrétienne, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus fondamental, concret, réel. Voilà en quoi le sang de Jésus-Christ est de loin supérieur au sang de l'Ancienne Alliance. Il se peut que vous n'êtes pas là pour votre propre épanouissement. Il se peut aussi que nous pratiquons la religion pour apaiser notre mauvaise conscience. Il est intéressant, je pense, de voir combien l'homme religieux a l'air d'avoir oublié ce point important. Le point important que Christ lui-même effectue par son sacrifice, pardon, de nos péchés. Mais l'homme oublie cela, même l'homme religieux, même l'homme qui se trouve au sein de nos églises. Il se peut que nous ne sommes pas comme des catholiques. Peut-être vous connaissez certains qui ont exercé le carême pendant tous ces jours qui précédaient la Pâque. Pas de dessert, pas de gros mots, pas de chocolat ou je ne sais pas quoi d'autre. Le jeûne pratiqué pendant la période de carême ne purifie pas. Point. Nous le savons, n'est-ce pas, cela? Donc, si on dit, oh oui, mais je ne fais pas ça pour la purification, je fais ça pour Dieu. Ouais, mais vous faites ça pour Dieu, pourquoi? Donc, quel objectif? Pourquoi vous vous sentiez que, ah, avec ma mauvaise conscience, ça va quand même indiquer quelque chose que j'ai fait pour Dieu? La religion peut nous aveugler par rapport à nos vraies motivations dans la vie. On peut aimer des rites, on peut aimer des longues prières, on peut aimer des habits spéciaux, des règles par rapport à la nourriture. Mais pour la mauvaise conscience, il ne faut qu'une seule chose, il faut le sang de Christ. Il ne faut pas la pratique religieuse. Donc, persister, retomber dans des pratiques qui sont plutôt liées à la purification de la chair, c'est non seulement ridicule, mais c'est aussi de mépriser ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Donc, tout ce qui est cultuel, verset 10, les règles de l'Ancien Testament concernant les aliments, les boissons, les diverses ablutions, les règles relatives au corps, c'était des prescriptions imposées seulement jusqu'à l'époque de la Réforme. Oui, ces règles avaient bien un rôle dans l'Ancien Testament, mais plus maintenant, ne retombons pas dans une religion, nous pratiquons des règles pour apaiser notre mauvaise conscience. Mais réjouissons-nous de ce que nous avons définitivement grâce à Jésus. Et cela nous mène à notre troisième constat, le résultat supérieur. Le pardon des péchés et non pas un pardon provisoire pardon définitif des péchés. Verset 12 du chapitre 9. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non pas avec du sang de bouc ou de taurillon, mais avec son propre sang. C'est ainsi qu'il a obtenu une rédemption éternelle. À plusieurs reprises dans ce texte, l'auteur revient vers cet aspect définitif du sacrifice de Jésus. Une fois pour toutes. Car si l'ancien système répétait sans cesse les sacrifices, chapitre 10, verset 1, présentait perpétuellement, année après année, c'était parce que ce système ne pouvait pas conduire à la perfection ceux qui y participent. Même le grand prêtre qui entrait dans le lieu très saint au jour de l'expiation d'une fois par an devait y retourner, verset 25, année après année dans le sanctuaire, avec du sang qui n'est pas le sien. Verset 10, 11 du chapitre 10, tout prêtre se tient à son poste chaque jour pour faire son service et offrir maintes fois les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Vous voyez la futilité? Ces sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, c'est désespérant dans un sens, n'est-ce pas? Mais, verset 26, maintenant Jésus s'est manifesté une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Il s'est offert, verset 28, une seule fois pour porter les péchés. Verset 10 du chapitre 10, nous sommes consacrés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Une fois pour toutes. Verset 12, après avoir présenté un seul sacrifice pour les péchés, il s'est assis à la droite de Dieu, c'est-à-dire terminé. Verset 14, par une seule offrande, il conduit à la perfection pour toujours ceux qui le rendent saints. Pourquoi cet accent aussi fort sur cet aspect définitif? Car le péché est bel et bien ôté. Définitivement, cela était la promesse de l'ancienne alliance. Et Luther termine le passage que nous avons lu avec cette promesse. Verset 17 du chapitre 10, « Je ne me souviendrai plus jamais de leur péché, ni de leur faute. » Et puis, dit verset 18, oh, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Plus besoin d'offrande, parce que le péché définitivement a été ôté. Et donc, il ne se souviendra plus jamais de nos péchés. C'est pas magnifique, cela? Est-ce que vous en court le danger d'oublier cela? D'être tellement conscient que je dois faire mieux dans ma vie chrétienne. Je dois faire mieux, je dois faire mieux, je dois faire bien, je suis bien pour rien. Oh, j'aurais dû faire ça, je dois faire mieux. Ça, c'est souvent pour le chrétien qui est désireux d'aimer le Seigneur. Oui, nous devons faire mieux. Mais non pas que nous glissons cette erreur, que c'est comme si le Seigneur n'a pas définitivement enlevé nos péchés. Il l'a fait. Je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés. C'est vrai? C'est vrai, ça? Si seulement c'était vrai pour mon épouse par rapport à moi. OK? Si seulement c'était vrai pour moi par rapport à mon épouse. Moi, je me souviens, je le regrette, des péchés des autres. J'ai du mal, comme dit le proverbe, de ne pas revenir en arrière. Quand on a une dispute, la pire chose à faire, la chose la plus pire à faire, comment on dit ça, c'est de faire quoi? C'est de soulever la même erreur qui a été faite il y a quelques semaines avant, il y a 2 ans avant. On revient sur quelque chose. Quelqu'un m'a aidé avec le proverbe. J'aime ce proverbe, mais j'oublie ce qui est dit dans ce proverbe. Ne soulevez pas le même truc. Mais on en parle après, je vais trouver ce proverbe. C'est-à-dire, je faisais semblant pendant 2 ans de t'avoir pardonné, mais boum, tu fais la même erreur. Alors là, je n'ai pas oublié ce que tu as fait il y a 2 ans. Hein. Et maintenant, on va en parler une nouvelle fois. C'est dur, ça, relationnellement parlant. Mais n'est-ce pas magnifique que Dieu a définitivement ôté nos péchés? Il se souvient, dans ce sens-là, il ne se souvient plus jamais de nos péchés. Oh, quelle liberté! Est-ce que c'est trop bon pour être vrai? Non, ça, c'est l'évangile de Jésus-Christ, mes amis. Ça, on a besoin de comprendre. Ça, on a besoin de communiquer à nos enfants qui grandissent, à nos jeunes chrétiens, à ceux qui sont un peu plus âgés, qui commencent à être un peu découragés. Nous avons une bonne nouvelle. Il ôte les péchés, définitivement, en Jésus-Christ. Est-ce que vous avez goûté cela, chers amis? Si vous avez goûté cela et que vous avez oublié cela, alors retrouvons la joie d'avoir un sacrifice grâce à Jésus-Christ qui donne un résultat supérieur à ce qui précédait.
Cela obtient, verset 12 du chapitre 9, pour nous une rédemption éternelle. Rédemption, c'est ce langage de libération de l'esclavage. Il nous libère des conséquences de notre péché. C'est une rédemption qui ne dure pas quelques jours jusqu'à mon prochain péché, mais éternellement.
Tous nos péchés, passés, présents, futurs, sont payés par le sacrifice de Jésus-Christ.
Verset 27 maintenant du chapitre 9. Tout comme il est réservé aux humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même aussi le Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés d'une multitude, apparaîtra une seconde fois sans rapport avec le péché, pour ceux qui l'attendent en vue du salut. Notre salut au dernier jour, au jour du jugement juste de notre Créateur, dépend du sacrifice de Jésus. Si le péché a été ôté, il l'est définitivement. Et donc, mon salut ne dépend plus de ma performance. Mon salut dépend de lui, de Christ. Pour certains, cela a l'air simplement trop bon, chers amis, trop gratuit. Et donc, l'homme construit des systèmes qui laissent quand même une place à l'homme de contribuer à son salut. C'est terrible que nous, au nom du christianisme, donc de la nouvelle alliance, nous avons pu tordre cette vérité pour créer des systèmes qui continuent à donner une place à l'homme pour contribuer à son salut. Oui, de nouveau, on peut critiquer les catholiques à juste titre pour le système de purgatoire développé pour que l'homme ôte de son côté les conséquences du péché, c'est-à-dire vous n'êtes pas encore suffisamment saint à la mort pour que vous puissiez entrer dans la présence de Dieu. Il faut encore une période, une longue période où nous devons rendre des œuvres de satisfaction. Ça commence déjà pour les catholiques aujourd'hui dans la vie actuelle. Et puis après notre mort, ça continue. Une fois ils disent que ces œuvres sont accomplies, ces œuvres de satisfaction, nous sommes enfin rendus justes aux yeux de Dieu. Ça, ce n'est pas l'Évangile. Ça, ce n'est pas la foi chrétienne. Nous sommes rendus justes par le sacrifice de Jésus. Point. La foi en Christ. Non pas la foi plus les œuvres de satisfaction. Mais même chez les protestants, chers amis, on peut introduire des différents niveaux d'exigence pour être considéré vraiment spirituel. On peut ajouter, oui, dans certains milieux, le parler en langue, le jeûne, les veillées de prière. Même si formellement, nous n'allons peut-être pas dire que notre salut en dépend, on peut entraîner par notre pratique des gens dans ce danger-là. C'était bien de commencer avec Christ, mais si vous voulez vraiment être performant et un chrétien qui honore Dieu, il faut ajouter X, Y et Z. Donc, la gloire du message chrétien, du sacrifice de Jésus, c'est que lui, c'est lui seul qui a accompli notre salut, notre délivrance, notre rédemption. Donc, chers amis, conclusion pour nous de cette longue lecture que nous avons vue. Nous voyons donc un lieu supérieur pour le sacrifice de Christ, un sang supérieur par rapport au sang des animaux, et nous voyons, merci Seigneur, un résultat bien supérieur. Comment ne pas remercier notre Dieu pour ce que nous avons en Christ. Donc, on va nous arrêter là, mais ce que je propose, c'est que peut-être
deux, trois, ou quatre ou cinq entre nous avec des courtes prières. On peut simplement remercier le Seigneur pour les exhortations de ce que nous devons. Est-ce que vous dites, mais est-ce qu'on va faire quelque chose pour finir ici? Est-ce qu'on va simplement toujours juste dire Christ est bon et c'est tout ça, la vie chrétienne? Non, demain matin, on va voir qu'à partir du verset 19, il va commencer à nous exhorter à faire certaines choses. Mais pourquoi autant de chapitres? Dans un sens, on a fait 8, 9, 10 sans exhortation. Pourquoi sans exhortation? Parce que nous devons comprendre ces vérités. Elles sont tellement précieuses que si nous n'avons pas compris ces choses, nous devons nous arrêter et dire notre salut dépend de Jésus. Et Jésus est meilleur. Alors pourquoi courons-nous le danger d'aller ailleurs, de revenir en arrière, de chercher ailleurs? Nous devons rester avec Jésus-Christ. Donc demain, on va voir ce que ça signifie un peu plus pour nous. Mais pour le moment, remercions le Seigneur pour Jésus et son sacrifice. Donc s'il y a plusieurs d'entre nous des courtes prières de reconnaissance, ce serait un bon moment, un moyen de terminer, je pense, ensemble. Je vais commencer, puis joignez à moi. Quelle joie, Seigneur, de savoir si là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi que Jésus s'est offert une fois pour toutes et que notre salut en lui est définitif. Quelle merveille, quelle joie de nouveau d'apprendre cela. Sois loué parmi nous, Seigneur, pour Jésus-Christ. Amen.
Merci notre Dieu de savoir que tout est fait.